Dans un premier temps, on va essayer de poser la question de l'éducation et des pratiques inclusives. En gros, de quoi on parle? Et je vais le poser en six idées. Et puis donc, parce que vous êtes la plupart formateurs, en tout cas tous des personnes ressources, quasiment, dans cette salle-là, eh bien, il ne s'agit pas simplement d'aller lire la classe sur qu'est-ce qui se passe dans une classe et qu'est-ce que ça veut dire que mettre en œuvre des pratiques inclusives, quelles qu'elles sont, mais je vais faire le pas de côté, puisque vous êtes formateur. Donc, ça veut dire comment vous pouvez faire attraper, c'est mon terme, la logique de l'éducation inclusive et de
En gros,
l'accessibilité.
c'est ça.
Alors, en six idées, vraiment très rapidement, donc l'éducation inclusive, c'est un mouvement mondial, tout le monde le sait, d'accord? Et ce n'est pas que nous, voilà, en France, qui avons décidé de faire de l'éducation inclusive une sorte de fer de lance de l'éducation. Donc, ça a débuté en 80. 10 puis 94. Et il s'agit simplement, évidemment, de donner accès aux personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, je mets y compris, parce que l'éducation inclusive en France a commencé par la question du handicap, en fait. Et du coup, il y a des malentendus qui sont générés depuis vitam aeternam chez nous. Et on croit encore aujourd'hui que quand on parle d'éducation inclusive, on va s'attaquer à la question de la scolarisation du petit handicapé. Donc effectivement, ça génère des malentendus et donc on va essayer de les enlever un peu. Bien sûr, les collègues qui sont dans l'ASH et d'éducation inclusive savent bien que ce n'est plus le cas aujourd'hui. En tout cas, il va s'agir de parler de toutes les personnes en vulnérabilité et puis de donner à tous une éducation qui est équitable et égalitaire, mais équitable aussi. Donc, je reprends là-dessus pour aller sur cette évolution du paradigme. Je ne reviens pas sur nos étapes, hein, de l'éducation, le temps de la séparation, le temps de l'intégration en 75 à la grande loi, là, voilà. Il s'agit de faire rentrer les personnes présentant des vulnérabilités, notamment présentant des handicaps au sein des milieux ordinaires, avec l'idée, et c'est là où je viendrai maintenant, en fait, j'apporte quelques éléments. L'idée, c'est de dire que au moment où on a fait rentrer dans le milieu ordinaire, avec ce qu'on appelait à l'époque les CLIS, et dans le second degré, les UPI. Très bien. Donc, dans les UPI, où il s'agissait, donc c'était des structures plus ou moins fermées, en tout cas pas ouvertes sur le contexte ordinaire et la classe ordinaire, où il s'agissait d'amener des remédiations, et il y avait un mot qui venait à l'époque, c'était la question de la compensation, et aussi la question de quand l'élève sera adaptable, alors on le fera passer dans le milieu ordinaire. C'était ça un peu la logique, hein. Je renvoie à toutes les publications. On le mettra dans le milieu ordinaire une fois qu'il est adaptable. Et donc l'effort d'adaptation, puisqu'à l'époque on parlait déjà d'adaptation. Donc ma collègue Marie Toulek, Thierry, je veux dire, a fait une HDR où elle montre les lexiques en fait. Dans tous les textes officiels, on parlait déjà d'adaptation, mais il s'agissait de l'adaptation de l'individu au système, notamment au système didactique. Puis après, en 2005, bien sûr, et pour nous, hein, voilà, en 2013, on est passé dans une logique inclusive. Alors on a dit à tous les enseignants, ah, mais ce n'est pas au sujet de s'adapter, c'est à vous de vous adapter, et notamment d'adapter les environnements, et c'est ce dont on va travailler aujourd'hui, didactiques et pédagogiques. Hein? Alors, ce n'était pas l'adaptation seulement des environnements physiques, mais aussi le travail, etc. Et donc, on a changé de paradigme. Et bien sûr, du coup, ça a permis de travailler sur un paradigme où il va s'agir plutôt de regarder les environnements, de regarder les obstacles aux environnements et les besoins des individus. Sauf que dans ce paradigme inclusif, Ah, et donc là, j'annonce déjà le changement qu'il y a eu entre ce qu'on appelle l'inclusion scolaire et l'accessibilité. Dans la question de l'inclusion, il s'agit de rendre accessible un environnement didactique et pédagogique en fonction des besoins d'un élève. Donc, vous focalisez le regard en tant qu'enseignant sur un élève en particulier. Vous faites votre réflexion pédagogique sur cet élève en partant de ses besoins donc présupposés. Vous organisez les tâches et par exemple, un enfant autiste, un enfant 10. Donc, vous partez encore du trouble. Et donc, le paradigme inclusif va focaliser d'abord sur la question de l'individu, du besoin dit soi-disant particulier. Sauf qu'on a montré qu'il n'était pas si particulier que ça. Toute la recherche l'a montré, et ça depuis un bout de temps. Et donc après, donc les enseignants commencent à travailler là-dessus, etc. Et puis voient subitement que quand ils vont faire des adaptations, c'est les mots employés à l'époque, enfin des listes d'adaptations qui correspondraient à un élève en particulier qui est 10, etc., par exemple. Et donc l'enseignant qui le met en œuvre, petit à petit, et c'est là où la recherche l'a très bien montré, Serge, Sylviane Feuillet-Adieu, moi-même, l'enseignant se dit « Ah, mais ce que j'ai fait pour lui, je peux le transférer aux autres. » Ça, c'est quand même magique. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu transversales et qui s'appelleraient en fait de la pédagogie peut-être universelle. Donc ça, c'était dans cette logique d'inclusion. Et en 2019... peu avant, mais peu importe, on est passé à la question plutôt de l'universalité, c'est-à-dire comment tu vas rendre les environnements pédagogiques et didactiques, puisque ce dont on parle aujourd'hui, accessibles à tous, en enlevant en amont les ensembles des obstacles qui pourraient advenir pour faire travailler. Et l'adaptation, la notion d'adaptation, viendrait en fin de course si, une fois que tu as rendu ton environnement accessible, cet élève qui a dans une classe a encore besoin, malgré tout ce que tu as fait pour les autres. Vous suivez la logique? Donc, on a un peu changé de paradigme. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, je parlais de processus contextualisé, où on passe vraiment de la question de l'intégration à l'inclusion et à l'école inclusive. Elle traverse les pays. Globalement, les pays, c'est ce que le collègue et des collègues sociologues ont montré, eh bien, ils passent tous par les mêmes stades. Et là, c'est ce que je disais. Donc, quand on travaille, ben, on voit que ça traverse les pays, y compris ceux dont on ne pensait pas. Hein, voilà. Alors, les questions professionnelles sont un peu différentes. Hein. Au Cameroun, 90 gamins par classe, jusqu'à 160, avec des élèves maintenant, école inclusive. Alors, ce petit, là, que j'ai suivi aussi, hein, donc bah, il n'a pas bras, pas de jambes, voilà. Tu as un petit autiste parce qu'il y en a de partout, d'accord? Tu as des enfants qui sont en grande difficulté, des enfants déplacés, des enfants présentant des syndromes post-traumatiques. Tout ce beau monde dans une salle comme ça. Et les enseignants, comment font-ils? Et la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que ce concept de pédagogie universelle est universel, quels que soient les contextes dans lesquels les enfants travaillent, enfin, les enseignants travaillent. Alors du coup, ça on vient de le dire, l'épine dorsale de l'éducation inclusive, c'est de dire que c'est plus à l'élève de s'adapter donc dans les situations, mais d'adapter les situations. Une autre idée, l'idée 3, c'est, on vient aussi de le poser, c'est que la question de l'éducation inclusive, je le répète, ne concerne pas les personnes en situation de handicap, mais toutes les personnes. A besoin particulier et au-delà. En gros, elle va considérer tout le monde. Mais en ce qui concerne les élèves à besoins éducatifs particuliers, il y a quand même un sacré problème en France. Parce que là, il y a un vrai paradoxe. C'est qu'on parle d'éducation inclusive pour l'enseignement à tous et on va parler encore d'élèves à besoins éducatifs particuliers qui sont catégorisés. Et donc, tous les systèmes sont faits par catégorie et par dispositif qui renvoie à des catégories. C'est un sacré paradoxe pour les enseignants. Quand on leur dit qu'il faut pratiquer l'accessibilité universelle avec des élèves qui ont des dispositifs qui réfèrent à leurs troubles et à leurs difficultés. Bien sûr, les catégorisations sociales, avec toutes les critiques qu'on peut en faire, elles ont quand même servi. Elles servent pour mettre en place des choses. Mais en même temps, bien entendu, elle réfère à une norme scolaire, à un écart à la norme. Et quand on est dans l'accessibilité, ben, on n'est pas dans une logique de norme scolaire. On est dans une logique de singularité. Voilà, avec... Donc, c'est ce que Serge Eberson montre aussi. Et du coup, évidemment, les catégories vont bouger d'un pays à un autre, puisque j'essayais aussi de vous montrer un peu la dynamique internationale. Et donc là, par exemple, on voit que toutes les catégories en orange, ben, c'est des catégories que vous retrouvez dans l'ensemble des pays, puisque bien entendu, c'est l'OCDE. Bien entendu, c'est les catégorisations internationales, mais qui sont sous-entendues notamment par des catégories du DMS 5, il va y en avoir un 6 bientôt, les psychologues sont là. Donc ça veut dire des catégories médicales, là en gros, quoi. Là. Et puis après, évidemment, vous avez des catégories qui parlent un peu, quand en France on parle des enfants allophones, alloglottes, là, qui réfèrent vraiment aussi à un contexte social. Puis il y a des pays, par exemple comme au Cameroun, les élèves issus de situations, alors ce qu'ils appellent les élèves des zones enclavées, éloignées des institutions scolaires ou victimes des urgences, évidemment, ça renvoie à eux, à un contexte social. Donc par exemple en Tunisie, etc. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ces catégories, mais en faisant des catégories, on va créer des dispositifs qui souvent... Alors ça, c'est pas Sylvie Sepp, c'est Christine Félix, une collègue, qui dit « Oh là là, en France, il y a 1000 feuilles de dispositifs et des fois, on marche sur la tête. » Parce qu'on se rend bien compte que quand tu parles par un dispositif, tu as des dispositifs pédagogiques et que des fois, ben, soit ça ne correspond pas, soit il y a des enfants qui pourraient en bénéficier et qui n'en bénéficient pas. Soit on se rend compte que y a des choses qui vont se croiser. Donc l'idée 5, c'est aussi de dire que l'éducation inclusive, ben, quand un pays s'y adonne, ben, ça va faire des modifications dans les paradigmes, on vient de le voir, ça évolue, hein, les cadres de pensée. Des modifications législatives, structurelles, on a bien vu les pléthores de dispositifs qui vont évoluer dans le temps. Et aussi formative. Formative parce que quand un pays s'adonne à ça, il faut former des gens, voilà, petit à petit, etc. C'est comme ça, par exemple, que, alors pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous savez, qu'on est arrivé en 2020 seulement à faire entrer dans l'INSPE un module de formation initiale des enseignants de 20 heures pour tous les enseignants de France et de Navarre. Premier, second degré, au moins dans tous les INSPE aujourd'hui, les enseignants qui sont formés entendent parler de cette affaire-là à minimum 20 heures, ce qui n'existait pas avant. Donc on voit bien les changements législatifs, tout comme on avait fait évoluer le texte pour le KPI, qui est maintenant en cours de travail aussi vers une évolution, peut-être une contre-évolution, j'en sais rien, mais quelque chose qui questionne en tout cas, voilà. Donc, si l'idée, c'est qu'il y a des évolutions de paradigme, évidemment, les évolutions de paradigme vont contribuer à des évolutions donc de pratiques. Et donc, qu'est-ce que sont que ces pratiques scolaires pour rendre accessibles les savoirs pour tous? C'est ça la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Ben, au risque de vous décevoir, c'est des pratiques aujourd'hui qu'on connaît quand même depuis, ou des postures qu'on connaît depuis un certain temps. Une école inclusive ne peut pas se penser sans partenariat et sans collaboration. Et pour inciter les partenaires, enfin, pour travailler en partenariat, eh bien, il y a des pratiques particulières, en tout cas, non seulement des habitudes, mais aussi ça s'incarne dans des questions d'opérationnalisation, des praxéologies, quoi. Donc voilà. Et puis après, il y a des pratiques qui vont être pédagogiques, donc au sein de la classe, puisque là on est en micro, voilà. Eh bien, ces pratiques-là, vous en avez entendu parler, y compris dans vos formations, si vous étiez enseignant, etc. Il va s'agir de mettre en œuvre de ce qu'on va appeler la pédagogie explicite, la pédagogie différenciée et de mettre en œuvre des adaptations pédagogiques. Ces trois termes, ça vous parle quand même. Ces trois termes, c'est des termes qui vont traverser en fait la notion d'accessibilité, notamment universelle, et on va particulièrement le travailler ici. Alors, donc, ces trois types de pratiques ou de postures, et je vais essayer de le définir, eh bien, elles vont traverser, en fait, la notion de pédagogie universelle, et elles vont s'infiltrer dans toutes les situations éducatives, qu'elles soient d'enseignement, d'apprentissage, mais dans toute situation, même si elles ne vont pas concerner le savoir. C'est pour ça aujourd'hui que quand on va former des psychologues de l'éducation nationale, on leur parle aussi de logique d'accessibilité universelle, analyse des besoins, etc. Donc du coup, j'en arrive maintenant à la conception universelle des apprentissages et ce qu'on va appeler la pédagogie universelle pour rendre accessible le savoir pour tous. Donc, dans une conception universelle, ben, il va s'agir en fait, donc là on est dans le dernier échelon de l'accessibilité, pas celle de l'accessibilité de compensation, compensatoire, hein, que Ebersold a défini. Donc l'accessibilité universelle, il va s'agir en fait de concevoir des produits, des environnements, ici des environnements pédagogiques et didactiques, pour toutes les personnes, hein, quelle que soit leur capacité, sans nécessité ni d'adaptation particulière, donc de concevoir en amont et de faire une analyse fine des situations et des environnements, qu'ils soient physiques, éducatifs, pédagogiques, et d'éliminer en amont, dans la tâche d'anticipation, donc tous les obstacles éventuels. Alors, la question des conceptions universelles est partie dans une réflexion sur les conceptions universelles environnementales. C'est-à-dire, c'est à peu près en l'an 2000 que les architectes ont commencé à mettre, à théoriser cette conception-là. Et donc, du coup, si on regarde cette affaire-là sur l'accessibilité environnementale, je crois que ça parle à tout un chacun. On voit bien que sans la rampe d'accès, les personnes à mobilité réduite ne peuvent pas rentrer dans ce lieu. D'accord ? Donc, on aurait pu faire... Voilà, donc là, c'est sans accessibilité. Une accessibilité qui est conçue au départ pour les personnes et que pour les personnes, on va dire, en situation de handicap moteur. Et c'est là, voilà. Et puis, la conception universelle où tout le monde peut emprunter cette rampe d'accès, qu'il soit à mobilité réduite, mais qu'il soit jambes cassées, qu'il soit fatigué, etc. Donc, en termes pédagogiques, ça renverrait à comment tu peux rendre accessible à tous cette situation d'enseignement-apprentissage. Vous êtes tous des enseignants pour la majorité d'entre vous. Il suffit de regarder cet environnement pour voir que seuls les enfants les plus avancés dans une classe de CE2, puisqu'il s'agit d'une planche tirée d'un manuel de CE2, eh bien, peuvent résoudre les consignes qui est, par exemple, que doit faire Caroline le mercredi 20 novembre, cette première consigne. Pour résoudre cette consigne, il faut que l'élève aille regarder dans un tableau qu'on lui signale DOC 2, par exemple. Je le fais vite, mais vous êtes tous dans le monde d'éducation, il n'y a pas besoin de décortiquer plus en avant. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment je peux rendre accessible à tous ce support de travail au lieu de le présenter aux élèves et de courir dans tous les sens parce que la majorité des élèves ne peuvent pas comprendre ce que vous leur demandez, quel geste on peut faire pour que tout le monde puisse le comprendre et peut-être aider aussi, faire une adaptation pour un petit qui serait dyscalculique, par exemple, et qui aurait besoin d'une adaptation un peu plus particulière. Vous me suivez l'idée ? Donc voilà. Alors, donc, je voudrais maintenant définir des notions peut-être que vous connaissez très bien, mais revenir là-dessus, qui est la notion de différenciation et de pédagogie explicite. Alors, ça, c'est un schéma classique qui est sur le site de l'IFE avec une superbe petit fascicule sur la différenciation pédagogique. Il y a eu en 96 aussi, 2016 aussi, la conférence de consensus NEXCO, etc. Ce que j'essaye de vous montrer là, c'est que la différenciation pédagogique, on le sait bien. Alors, donc, la différenciation pédagogique, c'est pas neuf, voilà. Quand est-ce qu'on a parlé de différenciation pédagogique en premier temps en France, dans les textes officiels? Dans les textes officiels, hein. Jospin, d'accord, c'était 89. Hein. La différenciation pédagogique, dit-il, c'est le seul moyen dont on dispose pour prendre en compte l'hétérogénéité des classes, mais à l'époque, on n'était pas dans quelque chose on n'était pas dans un système inclusif, donc déjà, il y avait de l'hétérogénéité des classes, bien entendu, donc comment on prend en compte l'hétérogénéité des classes? Eh bien, effectivement, en multipliant les dispositifs de formation. Ce sur quoi portent les tâches, sur les comptes, les structures, comment on met en œuvre le travail, sur les contenus, les structures, les processus, comment interviennent dans les tâches et les productions. Donc, c'est pour tous les la pédagogie différenciée, on le fait pour tous. Mais je vais infléchir ce schéma, je vais l'infléchir en faisant ça. Ce que nous disait le schéma à la base, c'est de dire que la pédagogie différenciée, on va multiplier les dispositifs, les façons de dire, les façons de faire, et ça va renvoyer une flexibilité pédagogique. Ça, c'est pour tous les élèves, en gros. Et pour les élèves à besoins particuliers, ça, c'était magique, c'est comme s'il y avait quelque chose à part, que la flexibilité pédagogique ne faisait pas partie, enfin, que les adaptations ne faisaient pas partie de la flexibilité pédagogique. C'est comme si on pensait la pédagogie différenciée pour tous et les adaptations que pour certains. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les adaptations que vous allez concevoir pour certains élèves parce que les gestes de pédagogie ordinaire de la classe ou de pédagogie différenciée explicite n'auraient pas suffi, ça fait partie de la flexibilité pédagogique. Et donc, du coup, cette frontière qui existait avant entre la pédagogie différenciée et l'adaptation pédagogique, aujourd'hui, n'existe plus dans la recherche, mais aussi dans les faits. Et c'est ce qu'on va montrer maintenant. Donc, du coup, on voit bien que quand on va mettre en œuvre la pédagogie différenciée, et ça, je vous renvoie, je ne sais pas si vous connaissez ce site qui est ressources pour l'éducation inclusive, on se rend compte que la notion de flexibilité pédagogique, eh bien, c'est vraiment une sorte de souplesse, des adaptations pour certains élèves, une fois que cette flexibilité pédagogique ne serait pas, entre guillemets, suffisante, et des modifications, et les modifications qui vont porter la plupart du temps sur des contenus. Et puis, donc, la pédagogie donc, différenciée étant celle-là, avec des gestes pédagogie différenciée, après, il y a la pédagogie explicite. Et là aussi, la pédagogie explicite, c'est une pédagogie qui va tenter d'enlever tous les malentendus qu'on crée, que chacun crée en enseignant. Hein. Et du coup, cette postule de rendre explicite le savoir à des apprenants, qu'ils ne soient pas dans le temps de prescription, pas dans le temps d'apprentissage, pas dans le temps d'institutionnalisation, etc., c'est une pédagogie, en enlevant tous les implicites, enfin en tout cas les malentendus plutôt pédagogiques, et en rendant clair en fait les objectifs d'apprentissage, etc., on se rend compte que c'est des gestes ordinaires de métier, mais qui vont non seulement servir à tous, et ils vont servir surtout aux élèves qui sont les plus en difficulté, dont certains dont on aurait cru que c'était une adaptation spécifique de faire ça, mais en fait c'est un geste générique pour tous. Pour résumer ce que je viens de dire, j'ai fait un petit montage qui permet de comprendre la dialectique en tête, même y compris de formation, pour arriver à la notion, à faire attraper la notion d'accessibilité universelle. Donc, soit en gros, on part, pour nous et pour les personnes qu'on veut former, de la question d'adaptation et de la question de compensation. Pour cet élève DIF dans cette situation, en gros c'est ça, qu'est-ce que tu veux, comment tu peux améliorer la situation pour qu'il accède à cette situation-là. Vous allez poser après la question, donc, et là on est dans la question de l'adaptation, et vous allez poser après donc, l'idée que, en faisant de la pédagogie explicite et différenciée, vous allez aider l'élève à rentrer avec des gestes, par exemple reformuler la consigne, lui dire exactement ce qu'on attend, par exemple. Et puis après, vous allez amener la personne, ou la logique, la de formation mais aussi, à penser que ce qu'il a mis en place pour cet élève, est-ce qu'il pourrait être diffusé à d'autres élèves, et à d'autres élèves qui représenteraient d'idées à besoins particuliers qui représenteraient, on va dire, non pas les mêmes troubles, mais les mêmes besoins. C'est là où l'enseignant, il commence à dire, ah ouais, le fait que je donne l'organisation de la tâche de A à Z et que je l'écrive au tableau, par exemple, pour l'enfant 10, parce que, qui aurait des problèmes de planification, là, ça peut aider mon enfant qui présente des problèmes de, par exemple, des enfants qui présentent un TSA, par exemple, trouble du spectre de l'autisme, parce qu'on sait que les enfants, ils sont horribles. Et puis après, il dit, ah non, mais ça, je pourrais le faire à tous. Vous voyez l'idée? Donc là, on est dans cette logique ascendante qui part de la notion d'adaptation. Mais vous pouvez imaginer la logique inverse pour les enseignants, de formation, mais aussi pour vous, de partir de l'analyse d'une situation, de réfléchir sur tous les obstacles qui pourraient être amenés, qui pourraient, obstacles pédagogiques et didactiques, qui pourraient donc être mis en œuvre dans cette situation, avec les gestes de pédagogie différenciée explicite. Donc, enlever les obstacles et regarder si au bout du compte, pour ce petit ou pour cette petite romane dans la classe, est-ce que ce que j'ai mis en œuvre pour l'ensemble de la classe suffit pour elle. Et là, on est dans une logique d'accessibilité universelle, mais descendante. Voilà un modèle qui va conduire aussi les dispositifs de formation, en tout cas qui conduit les miens et ceux que je forme, donc par rapport à ce que je viens de vous citer. Donc, l'idée, c'est, donc ça vous l'avez bien saisi dans mon propos, si on part de logique de l'adaptation, qu'est-ce qu'il faut pour adapter une situation d'enseignement et apprentissage si je pars de la logique du bas? Donc, évidemment, puisqu'on est des enseignants, on ne peut pas ne pas travailler sur les contenus de savoir. Et c'est ce qui va être c'est ce qui va différencier ce qu'on va appeler l'accessibilité pédagogique et didactique. Ça veut dire que la première des tâches qu'on doit faire quand on est enseignant, quel qu'il soit, ou quand on forme des enseignants, c'est de faire à cet enseignant une analyse. Alors, bon, les didacticiens, ils appellent ça les analyses a priori. en partant des textes officiels, c'est-à-dire qu'est-ce que donc les analyses descendantes et ascendantes, c'est-à-dire par rapport aux textes officiels, mais aussi aux techniques et aux tâches, techniques avec les tâches qui vont permettre d'accéder au savoir. Une fois que l'enseignant sait ça, eh bien, il va pouvoir analyser les besoins des élèves. Mais ce qu'on appelle, et c'est là où je voulais en venir avec vous, l'analyse des besoins, ça ne veut rien dire. Ce qu'il est important de faire si on veut rendre accessible la tâche par l'adaptation, c'est de faire l'analyse des besoins située dans une tâche scolaire. Les besoins, les adaptations a priori ne sont pas toutes étayantes, quelle que soit en fonction des contextes et des exercices et des enjeux de savoir qu'on veut développer. Voilà ce que j'essaye de vous dire. Donc, l'idée, c'est de faire donc, l'analyse, on va dire, de la tâche, l'analyse des besoins situés et de trouver des adaptations. Et après, de réfléchir sur comment ces adaptations seront diffusables ou non. Mais évidemment, si on part de la logique de l'accessibilité, ben, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. L'un n'excluant pas l'autre, d'ailleurs. Eh bien, hein, on enlève les obstacles, on fait l'analyse didactique, l'analyse donc de la tâche, les objectifs d'enseignement, etc. Ascendante, descendante, ça c'est des modèles de didactique. La question du besoin situé et de l'accessibilité didactique, elle est au cœur de la notion d'accessibilité universelle. Parce que si on ne fait pas ces analyses de savoir, alors on peut rester sur une sorte de... On peut même aller au-delà, c'est-à-dire on peut même aller au-delà avec la question du surétayage, c'est-à-dire que l'ensemble des recherches, notamment en didactique des mathématiques, ont montré que si je ne travaille pas sur le savoir et les techniques, les enjeux de savoir et les techniques et les tâches, ben on peut faire du surétayage, et c'est-à-dire qu'on peut même modifier en adaptant la tâche et les enjeux de savoir. Et du coup, on arrive dans une sorte de paradoxe où les enseignants n'enseignent plus ce qu'ils voulaient enseigner. Et ça, c'est très bien montré par Teresa Assud, notamment en didactique des mathématiques et notamment en Ulysse, par exemple. Maintenant, on va passer à la deuxième question parce qu'elle va être plus entre guillemets vivante, puisque je vais vous demander de... Je vais mettre un peu en réflexion autour d'exemples pour rendre accessibles des situations d'enseignement et des exemples que je vais vous demander à travailler. On va commencer par là, avec une démarche qui est la démarche de l'APP de Marguerite Alté, c'est-à-dire d'observer une situation sans juger, mais avec l'idée de regarder, là on n'est pas au domaine de l'enseignant, mais de regarder pourquoi dans cette situation, moi j'adore enfoncer des portes ouvertes. Donc enfonçons des portes ouvertes, s'il vous plaît. Donc la question que je vous pose là, dans un premier temps, c'est pourquoi cet élève-là et pourquoi la majorité des élèves de la classe, qui était question, ont répondu les réponses, sauf ceux qui avaient des difficultés et encore. Est-ce que vous voyez des petits obstacles ou malentendus pédagogiques? Par exemple, est-ce que ça va pour vous? Suivant, tout le monde a vu, après un autre. La flèche, un autre, un peu plus c'est-à-dire, c'est les termes alors, c'est les termes employés, d'accord? Ok, d'accord. Donc un petit malentendu lexical dans ce cas-là, c'est ça? Et un autre? Très bien. Ok, très bien. Donc on voit bien que vous êtes enseignant, voilà. Donc vous imaginez qu'effectivement, vous avez montré que c'est un vrai une polysémie du mot suivant. Il y a les deux étoiles, c'est pas sorti dans votre groupe, ça on se demande bien ce que ça vient faire là. Voilà, il y a la question de la flèche iconique et puis il y a aussi le ABCD. Le ABCD qui renvoie aussi à la chronologie et à un raisonnement successif. Donc effectivement, si bien que le petit qui répond ça, dans ce contexte-là, il n'a pas tout à fait tort et il a même tout à fait raison par rapport à ce qu'on lui propose. Donc on voit bien que quand on est dans une logique donc d'accessibilité, ça c'est un petit exercice hein, qu'on fait faire en formation. Une première des questions qu'on pourrait poser aux formés, c'est quelles compétences on travaille pour les élèves. Voilà. Et puis, bon, pourquoi la majorité des élèves? Et après, donc, on peut demander, ben, trouve trois ou quatre trucs et astuces pour enlever les malentendus. Quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a généré quand même la question de la pédagogie explicite. On a réfléchi sur les malentendus pédagogiques et on a trouvé les solutions par des techniques qui sont, on observe une situation minimale, celle-là, minimale, on observe une situation, on essaye de regarder les obstacles, on peut la théoriser, et puis après, on va trouver des trucs et astuces. Quand vous faites ça, vous travaillez sur la logique de l'accessibilité universelle et vous employez, en tout cas, et je reviens par là, là-dessus, une technique de formation et d'analyse du réel, hein, qui est une des premières techniques en 92 qui a été posée par Marguerite Altaï avec ce qu'on appelle les APP. Donc les APP, il y en a de différentes sortes, mais l'idée, c'est d'observer, de problématiser, qu'est-ce qui va poser la question, c'est exactement ce qu'on vient de faire, d'analyser pourquoi. Pourquoi cette flèche-là, elle est problématique pour un élève et elle induit la question du suivant, qui est réétayée par non seulement le mot suivant, mais aussi l'iconique avec la flèche. Ça va pour vous? Et aussi avec le ABCD. Hein, ça veut dire qu'en fait, tout conduit l'élève. Donc c'est ça, quand on crée du sens, tout conduit l'élève à penser que quand on demande suivant, c'est écrire quelque chose qui va suivre un nombre. Tout. OK? La théorisation avec les modèles, ça on peut convoquer des modèles psychologiques, par exemple, notamment sur les traitements iconiques, sur la question de la temporalité, et on va faire concevoir des nouvelles pratiques. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé la logique de l'accessibilité universelle. C'est dans une classe, comment tu rends par la question de comment tu rends accessible cette petite situation. Ça ne paye pas de mine comme ça, mais c'est exactement ce qui est fait. Donc là, on sort du support, uniquement du support, si vous le voulez bien. Et on va regarder, on va observer un temps de prescription. J'ai le film, j'aurais pu vous le montrer aussi. Donc, voilà une consigne orale qui est donnée par un enseignant. Là, on est en sixième. C'est bon là? Alors, les gamins, ils rentrent. C'est bon là? Alors, je le joue un peu, hein, voilà. Bon, tout le monde est assis, tout le monde a sorti ses affaires. Ok, d'accord. Ouvrez votre manuel, page 23, s'il vous plaît. Dépêchez-vous un peu. Puis, vous allez faire la consigne de l'exercice 5.1. Ça va? Et vous notez les réponses sur une feuille, ok? On comparera après. Ça, c'est la consigne qui est donnée par l'enseignante. Ça va? Les petits, ils ouvrent tant bien que mal leur bouquin, page 23, et ils se trouvent confrontés à cette consigne écrite. Distingue dans cet extrait les compléments, etc., de lieu suivant. Donc, là, on fait quoi? On va observer une situation qui est celle, une situation extraite d'un bouquin de français, et puis une consigne orale. Et on voit bien quelques obstacles à la compréhension de cette consigne, qu'elle soit orale ou qu'elle soit écrite. Donc, tentons de faire une analyse rapide. Sur la consigne donc écrite, quelle est la difficulté de compréhension? Très bien. Le verbe distinct, donc là on est sur un terme qui n'induit pas une action. On est d'accord là-dessus? Ok. Ok, le report à la page 56. Consigne multiple. Voilà, donc il y a quelques consignes. Le vocabulaire, très bien. Donc là, on voit qu'il y a plein d'éléments pour que dans une classe de 6e, eh bien, seuls quelques élèves puissent comprendre cette consigne-là. On est d'accord? Même si le cours que la prof avait fait, on peut imaginer ça, était parfait en amont. Hein? On peut imaginer que le cours avait été parfait, qu'elle avait bien structuré, qu'il y avait bien une institutionnalisation avant le cours précédent, etc. Malgré tout ça, ça ne fonctionne pas. Bien entendu, tous ces exemples-là, c'est des exemples que je prends dans les classes. Hein? Ce n'est pas moi qui les invente. Hein? Donc maintenant, regardons un peu la consigne orale. Alors, qu'est-ce qui ne va pas là? Ok. Donc les petits, il n'y a pas de rappel, ce qu'on va appeler les remobilisations de connaissances. Ça va pour vous si je dis ça? Il n'y a pas de rappel, effectivement. Après, qu'est-ce qui ne va pas encore?
Il n'y a pas de lecture de la consigne.
Très bien. De la part de qui?
Une sollicitation de l'enseignant sur cette consigne, quels sont les mots qu'on ne comprend pas.
Voilà. Donc, une explicitation de cette consigne. Bien que cette réflexion, en fait, on est vraiment au cœur de la question de qu'est-ce qu'on attend des élèves, en fonction de la tâche qu'on va demander, quel processus, en fait, vous allez capter chez l'élève, la technique, non seulement de résolution, mais les enjeux de savoir. Et du coup, en démontant ce qu'on cherche à faire et ce que les tâches induisent, eh bien, on voit bien qu'on peut faire des choix pédagogiques pour tel élève, pour tous. Mais quoi qu'il en soit, on est dans la réflexion sur l'accessibilité universelle. Et avec toutes les questions que ça pose au niveau des choix pédagogiques et des choix de l'enseignant, avec toutes les dissonances que l'enseignant peut faire en fonction d'avoir un objectif commun, réduire les exigences, etc. Voilà ce que ça peut donner, par exemple. D'accord? Alors, voilà ce que ça pourrait donner. Hein? Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait non plus, c'est des groupes de travail, hein, voilà. Et après, ils ont testé dans les classes, c'est ça qui est intéressant. Et donc, vous voyez bien que là, on a indexé les tâches, ils ont mis voilà, on a fait un tableau. En faisant ça, on n'a pas modifié les enjeux de savoir. Le petit, il travaille bien sur la question des descriptions. Donc, le savoir en jeu, là, c'est les compléments circonstanciels. Voilà. Et avec le classement selon leur nature. Donc, on n'a rien enlevé, sauf qu'on a rendu accessible cette consigne. Alors, est-ce que ça suffit pour mettre en travail et pour toucher, pour arriver à faire travailler tout le monde, notamment les élèves qui présenteraient des besoins plus spécifiques? En tout cas, en faisant ça, on a déjà enlevé 90% des obstacles. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à faire en plus pour certains? Voilà, en fonction des niveaux, hein, voilà, vous disiez, est-ce que par exemple, je fais le choix de ne faire travailler que, voilà, de les repérer sans les classer après? Mais si tu ne les classes pas, ça veut dire que tu ne travailles pas sur leur fonction. D'accord? Donc, du coup, c'est des choix. Et là, on fait partie de la flexibilité. Et vous êtes vraiment dans l'accessibilité pédagogique, mais aussi didactique, parce que vous avez travaillé sur les objets de savoir que vous voulez enseigner. Et sur la façon C'est ça un peu la différence entre... Et quand vous êtes sur des listes d'adaptation données par l'institution, vous n'êtes pas sur l'analyse didactique. Vous êtes sur des adaptations pédagogiques qui, la plupart du temps, relèvent de la différenciation et de l'explicitation. Donc, j'espère vous avoir fait un peu sentir ces deux logiques pour accéder à l'accessibilité en passant par la conception universelle ou en passant par la deuxième logique, en quelque sorte, de Eberson. Et vous voyez bien que c'est une dialectique, en fait. Mais l'important aujourd'hui dans la question de l'école inclusive, c'est vraiment de ne pas rester sur qu'une logique adaptative. Parce que sinon, on se trompe et sinon, ça fait croire aux enseignants qu'ils sont obligés, en fait, en quelque sorte, de faire l'analyse des besoins de tous les élèves et de créer des choses particulières pour chacun d'entre eux. En tout cas, c'est une logique qui est probablement plus rassurante. Et c'est surtout une façon de dire que malgré toutes les difficultés pour lesquelles sont confrontés aujourd'hui les enseignants dans cette question d'école inclusive, de vraies difficultés de terrain, une hétérogénéité qui a augmenté, compris une hétérogénéité par rapport à cette fameuse norme scolaire, des contradictions entre le fait que l'école inclusive ne devrait pas devrait partir de la singularité, alors que nous, on parle de la norme. On est dans un système comme ça. Eh bien, c'est possible de faire quand même et de faire avancer des groupes classes. Voilà, c'est ça l'idée.